le pays du Vietnam, c'est un.
But Britain is not saying goodbye to Hong Kong.
Histoire d'Asie, le podcast qui retrace l'histoire asiatique en faisant parler de jeunes chercheurs.
Peut-être qu'en restituant ce passé, c'est-à-dire l'importance de l'Asie, ça poussera à penser...
Avouons-le, on ne connaît rien à la Thaïlande. Et la plage de Leonardo DiCaprio, la destination un peu cheap que l'on voit sur les sites des voyagistes, ou des restaurants gentrifiés singeant une cuisine populaire. Et pourtant, l'ancien royaume du Siam jouit d'une riche histoire, parfois commune avec la France. Une histoire qu'Histoire d'Asie a décidé de mettre en valeur pour ses trois prochains numéros. Oubliez le Pad Thaï, Bangkok et Phuket, et découvrez pour ce premier entretien l'étonnante histoire de l'ambassade française envoyée au Siam par Louis XIV en 1685. Pour nous en parler, je reçois Maëlle Penguès, étudiante à l'université de Lyon 2, qui a soutenu un master d'histoire intitulé « Jean Basset, étude critique du récit inédit d'un voyageur au Siam en 1685 ». Bonne écoute, bonne découverte. Tout d'abord, Maëlle, c'est la question rituelle. Pourquoi l'Asie ?
J'ai voyagé dans plusieurs pays asiatiques, en particulier la Thaïlande, anciennement Siam. Et j'ai vraiment été fasciné par cette région. Alors, ce que j'y ai vu, les rencontres que j'y ai fait. Et ça m'a vraiment donné envie d'en apprendre plus sur ce pays qui est la Thaïlande en particulier. Donc c'est de là que c'est venu. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très développé en France.
Avant d'entrer au cœur de ton travail, je te propose qu'on se concentre sur les sources. En effet, tu utilises dans ton mémoire le journal de voyage d'un missionnaire, Jean Basset. Mais qui est ce personnage historique ?
Alors Jean Basset, c'est un religieux en formation, on va dire. Parce qu'il est né en 1662, donc quand il voyage, il est encore jeune, c'est son premier voyage à l'étranger. Il sort de l'école, enfin, il a été diplômé de la Sorbonne. Du coup, il a fait sa formation à la Sorbonne, où il a déjà rencontré certains acteurs de l'ambassade, sans doute l'abbé de Choisy, qui a été aussi à la Sorbonne. Donc, il faut se mettre en tête qu'on analyse le récit de quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui est très jeune, qui est sans doute au vu de sa formation et de ce qu'il connaît encore très dogmatique. Et donc il faut déjà se mettre ça dans l'esprit quand on découvre une source pareille. Alors Jean Basset, on a des sources de lui. On a plein de lettres de lui qui sont à la mission étrangère de Paris, donc l'ordre religieux à laquelle il appartient. Et cet ordre religieux est d'ailleurs très récent au moment de l'ambassade au Siam, parce qu'il est fondé en 1660. Et là, on est en 85, donc c'est encore un ordre qui est en train de s'organiser, même s'il est déjà assez important en Asie du Sud-Est. Donc on a des archives de Jean Basset, des lettres personnelles de lui à la mission étrangère de Paris. Après ce document, il semble... ça m'a un peu étonné de le découvrir, parce que... Je cherchais des sources et donc je me suis dit, je vais commencer à une échelle locale, je vais commencer par les bibliothèques lyonnaises, et je sais qu'il y avait un fonds Jésus très important à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc j'ai commencé par là, une simple recherche bête sur le site de la bibliothèque municipale Siam. Donc on élimine les tout ce qui est sort de la période moderne, et on se retrouve avec un récit de voyage comme ça, datant de 1685. Donc on ne sait pas ce que ça va donner et on va voir. Et rapidement, j'ai compris en échangeant avec les archivistes, en suivant un peu le document, qu'il n'avait pas été traité. Donc je me suis lancé là-dedans, dans ce journal. Après, pourquoi ce journal est à Lyon et pas à Mission étrangère de Paris, c'est un peu la question. On ne sait pas vraiment. L'hypothèse qui me semble la plus probable, c'est que c'est quelque chose qui a été envoyé à l'évêque d'Autun, donc qui est dans la région de Dijon, et peut-être que celui-ci l'a renvoyé à son père qui était lyonnais. Enfin, on ne sait pas vraiment.
Juste une petite précision, peux-tu revenir sur ce que sont les missions étrangères de Paris ?
Donc les missions étrangères de Paris, c'est une société apostolique. Ça se situe vraiment dans la pensée d'Alexandre de Rhodes, avec une volonté, par exemple, de former un clergé local. Mais c'est le but est vraiment l'évangélisation des peuples. Alors les premiers grands vicaires apostoliques sont des vicaires qui vont au Siam, c'est François Palu et Pierre Lambert de la Motte. La Motte est décédé très récemment, il est décédé en 1679 et il était évêque de Métellopolis, donc c'est la région du Siam. Il a été remplacé par Louis Lanneau, donc un autre des missions étrangères de Paris. Donc on a vraiment pour la région du Siam un développement de cette congrégation beaucoup plus que les Jésuites.
Tu décris ce journal non pas comme un journal intime, mais comme un journal de mission, journaux qui sont d'ailleurs en vogue au XVIIe. Mais qui sont-ils? À quoi servent-ils?
Alors les codes de ces journaux, c'est vraiment des pour apprendre, hein, pour faire de la formation. Les récits de voyage, ils ont beaucoup évolué entre le 16e et le 17e. Le 17e, on est dans ce qu'on appelle un peu l'âge de la raison. On a une méthode beaucoup plus scientifique. Et là, le récit de voyage, c'est vraiment une description géographique, une description des peuples pour mieux appréhender ces peuples afin de les convertir par la suite. Le but est de montrer aux futurs missionnaires, vous allez aller dans tel pays, vous allez connaître ce pays, la géographie, comment la religion de ce pays et toutes ses caractéristiques pour pouvoir être plus efficace sur le terrain.
Tu l'écris très bien dans ton introduction. Outre la difficulté d'avoir sans cesse un regard critique sur les écrits de Jean Basset, tu as également dû travailler avec la quasi-absence de sources siamoises à l'époque moderne. Mais comment est-ce possible? Il ne reste vraiment rien?
Il reste une source, qui sont les chroniques royales d'Ayutthaya, qui ont été miraculeusement conservées et traduites en anglais. Et par contre, pour le reste, il n'y a plus rien. On trouve des fois, comme expliqué Gilles Delouche, un ou deux papiers déchirés au fin fond d'une boîte d'archives, mais on s'arrête à peu près là. Donc l'explication est assez simple, c'est que le Siam, durant toute l'époque dite d'Ayutthaya, ce qui correspond un peu à notre époque moderne, était en guerre avec la Birmanie, donc le voisin birman. Et en 1767, la Birmanie met à feu complètement la capitale, envahit le pays, et vraiment il y a une destruction intégrale des sources. Alors pour ce qui est juste de la source qui existe, les chroniques royales d'Ayutthaya, c'est quelque chose qui met vraiment en avant les souverains, les rois, et deux aspects particuliers, l'aspect militaire et l'aspect religieux des rois.
Ainsi, ces sources plus que lacunaires aident donc peu à confronter le regard de Jean Basset. Mais qu'en est-il de l'historiographie du Siam? Moi-même, je m'étais confronté en TD en histoire contemporaine à une historiographie très anglophone. Au niveau francophone, est-ce que le Siam est très étudié?
Alors, pas du tout. Alors, le Siam, il y a une Rita Bernadès de Caballo dans son mémoire l'explique très bien. Il y a un grand attrait pour la Chine, le Japon et l'Inde, mais beaucoup moins pour les autres pays. Alors en France, on a quand même un peu un attrait sur la région du Vietnam parce que il y a un passé commun avec la France, c'est un passé de colonisation, donc c'est un passé qui est quand même en partie très violent. Par contre, pour le Siam, ce qui intéresse les Français, c'est ces ambassades de Louis XIV. Mais après, autour de ça, on n'a pas grand-chose. Alors, on peut citer quand même quelques auteurs. On a la thèse d'Alain Forest, qui se base sur les contacts missionnaires, qui est vraiment une thèse très complète et qui essaie au maximum de se pencher sur le cas du Siam. On a les travaux de Michel-Jacques Argouelche, qui sont inégaux, on va dire. Il y a des aspects qui sont quand même très européocentrés. Et c'est pareil pour Dick van der Kroes, qui a fait plusieurs travaux, des travaux très intéressants, notamment sur l'abbé de Choisy, une biographie, et puis un excellent article, l'abbé de Choisy, historien du Siam. Je mets beaucoup plus de réserves sur le livre Louis XIV et le Siam.
On le voit, il s'agit donc de travailler avec une historiographie très européano-centrée, mais y a-t-il des historiens ou historiennes thaïs qui travaillent sur ces questions ou pas?
Oui, 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 il y a l'excellent Divaratna Pombeja qui a fait sa thèse sur le, on en reparlera quand, peut-être plus tard, qui a fait sa thèse sur la politique haussienne au XVIIe siècle. Il y a Gilles Delouche qui a fait beaucoup de, qui est décédé, malheureusement, en janvier de cette année, qui a fait, qui est lui, qui était responsable de la section Thaï à l'INALCO, donc, qui maîtrisait le Siam et qui a fait d'excellents travaux. Il y a quand même un journal qu'il faut signaler, c'est le Journal of Siam Society, qui est sous patronage royal de la couronne Thaï et qui regroupe des historiens. Alors après, on a une difficulté avec les historiens Thaï, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent en langue européenne, donc ça rend les choses plus compliquées.
Maintenant que nous avons présenté les sources de ton mémoire, entrons dans le vif du sujet. Alors, pour contextualiser, quelle est la situation poétique en France et au Siam qui va permettre cette politique d'échange entre les deux pays?
Alors, le royaume de France, là, à ce moment, c'est vraiment un moment d'apogée. C'est Louis XIV a gagné des guerres importantes, notamment contre les Néerlandais. Donc, d'un point de vue militaire, le pays français est quand même... le royaume français est à son avantage, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a des soucis plus internes, notamment liés aux religions, et l'ambassade part, la situation en France évolue beaucoup entre son départ et son retour, parce que entre-temps, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, un peu après le départ au Siam. Donc, qui montre bien quand même qu'il y a des tensions internes dans ce royaume. Alors pour la Thaïlande, là, il y a eu une grosse erreur qui a été longtemps présente dans l'historiographie, c'est de dire ils ont accueilli les Français parce qu'ils en avaient assez des Néerlandais qui prenaient trop de place. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'historiographie, et il y a un livre qui est absolument fondateur et qui a un peu mis ce mythe de côté, parce que avec cette thèse s'accompagnait le fait que les Français ont chassé les Néerlandais parce qu'ils avaient une supériorité militaire, ils étaient entrés avec les Néerlandais, et donc les Néerlandais se seraient couchés. Donc l'historien qui a un peu brisé ce mythe de la France chassant les Néerlandais au Siam, c'est George Winnell Smith, avec son livre The Dutch in 17th Century in Thailand, publié en 1977. Donc, où il explique bien justement que les Néerlandais sont encore présents, même ont encore un poids quand les Français sont là. Le Siam, lui, c'est un pays qui accueille tout le monde, et c'est aussi un avantage pour les puissances européennes. C'est un pays qui accueille tout le monde sans distinction de religion. Donc il y a l'aspect religieux qui est beaucoup plus embêtant dans d'autres régions où il y a des conflits religieux, alors qu'au Siam, qu'on soit musulman ou qu'on soit catholique, le roi accueille, permet de mise en place de comptoirs commerciaux, et donc ça va.
Donc on est dans une période d'apogée du règne de Louis XIV en France et au Siam.
Alors, depuis 1656, il y a un roi qui est assez solide, donc on est un peu... C'est une période un peu plus stable que le début du XVIIe siècle, voire même la fin du XVIe, où là, il y avait régulièrement des assassinats, et le poids était pas stable, donc ce qui était un peu embêtant. Là, avec le roi Narai, on a plus de stabilité, ce qui permet aussi le développement d'une politique. Donc vraiment, ce roi participe aussi à la possibilité pour les Européens d'être facilement ici. C'est vraiment un roi important, donc c'est un personnage qu'il faut garder en tête quand on travaille sur cette époque-là.
Ainsi, on l'aura compris, on est tant en France qu'au Siam, dans des moments politiques favorables aux aventures étrangères, mais quels sont les intérêts pour le roi Louis XIV et le roi Narai de s'engager dans une politique d'échange?
Le Siam, lui, il est prêt à accueillir tout le monde qui fait du commerce, parce qu'il en retient un certain profit, parce que les comptoirs commerciaux ont une taxe qui va directement à la royauté. Donc, d'un point de vue économique, c'est bénéfique. Et on laisse les Européens faire leurs églises comme ça. Il y a quand même une période calme et les Portugais ont pu mettre en place leur église. L'intérêt pour la France, c'est aussi de pouvoir s'installer en Asie, parce que il y a eu un monopole au cours du XVIe siècle avec les Portugais et les Espagnols, et après ça a été les Néerlandais qui sont restés très présents dans la région, et avec un début de ce qu'on appelle la colonisation, notamment dans la région malaise. Donc les Français étaient un peu en retard par rapport à ça. Ils voulaient vraiment se développer à l'étranger. Et il y a aussi évidemment l'aspect religieux. Louis XIV veut montrer qu'il est un grand roi pieux et mettre aussi en place la conversion d'autres peuples.
Avant cette ambassade de 1685, quel est l'historique de la relation franco-siamoise ?
Elle est extrêmement récente. Les premiers Français arrivés au Siam sont les missionnaires de la mission étrangère de Paris en 1662. Et les ambassades, c'est un peu le début aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives qui ont échoué, des bateaux qui ont coulé. Il y en a une en 84, donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans les prémices de cette relation. Dans les prémices et aussi la fin, donc on est dans les deux.
Parlons de l'ambassade elle-même. Qui compose cette délégation ? Enfin, on va pas taire tous les personnages, mais quelles en sont les grandes figures ?
Je pense qu'il y a trois figures principales. Il y a le chevalier de Chaumont, qui est l'ambassadeur principal, l'ambassadeur adjoint, qui est Louis-Timoléon de Choisy, et Guy Tachard. Alors, les trois ont un parcours complètement différent. Chaumont, c'est un noble, c'est quelqu'un qui a voyagé, c'est un ancien protestant qui s'est converti, donc et qui est très aidé, ce qui en fait un avantage auprès des Français, parce que bon, être un ancien protestant, c'est mal vu, mais être très aidé et dans le sens où on va très fortement appuyer la religion catholique à l'étranger, ça c'est quand même beaucoup mieux vu. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une expérience de navigation, qui a fait des missions au Canada, donc c'est un militaire, c'est vraiment quelqu'un, le profil type de l'ambassadeur au XVIIe siècle. Choisy, c'est pas du tout la même chose, donc il faut en 85 sortir de l'idée que l'on se fait avec les biographies de Choisy qui ont été faites de l'ingénu, du travesti. On n'en est pas encore là. On est vraiment Choisy à ce moment-là. Il vient d'échapper à la mort. Il a fait, évidemment, c'est à la base un religieux. Il a fait ses classes à la Sorbonne. Là, il vient d'échapper à la mort. Il essaie de trouver un quelque chose à faire de sa vie, quelque chose de positif. Donc là, il a essayé, il a quand même des bonnes relations. Donc il a réussi à se faire nommer à cette ambassade, mais sans moyens financiers. Mais il va quand même essayer de s'intéresser au Siam. Il récolte des pièces de monnaie pour les étudier, décrire le Siam. Il essaie vraiment de faire une bonne description du Siam. Et au final, on s'attend, vu les conditions, à ce qu'il fasse un récit très, très religieux. Et au final, pas du tout. On est dans une période vraiment d'évolution du personnage. Et le dernier, Guy Tachard, donc c'est un jésuite, qui part officiellement en tant que mathématicien, parce que le roi Louis XIV peut pas envoyer des missionnaires jésuites, c'est le pape qui décide ça, c'est pas Louis XIV. Donc il est envoyé à l'ambassade en tant que mathématicien. Et c'est vrai qu'il a, on voit tout au long du récit, il fait des observations astronomiques, mais c'est aussi quelqu'un qui est politiquement très engagé dans ses ambassades. Il est proche du ministre du roi Thaï, Constant Falcon. C'est quelqu'un qui intervient un peu dans l'ambassade de 85, qui intervient beaucoup plus dans l'ambassade de 87. Donc c'est quelqu'un qui développe une appétence pour la région.
Pourquoi justement Jean Basset intègre cette ambassade ? Parce que tu me disais, il est jeune, il termine ses études. Pourquoi lui ?
Bon, pour lui, j'ai envie de dire tout simplement parce qu'il est, il fait partie de la mission étrangère de Paris et que c'est vraiment le, l'objectif de la mission étrangère de Paris de s'installer au CIEM. C'est, d'ailleurs, c'est au CIEM que se font toutes les, tout le développement de la MEP avec le, l'installation de, j'ai envie de dire, le quartier général. Donc, c'est, ça paraît logique que quelqu'un des missions étrangères à Paris soit vraiment envoyé là-bas.
Donc, en mars 1685, cette ambassade donc, quitte par bateau la France. On va s'intéresser à un voyage de la France au Siam au XVIIe siècle à travers donc, les journaux que tu as sans doute étudiés, que tu as étudiés. Comment se déroule un voyage entre la France et le Siam? Quels sont les moyens? Quels peuvent être les dangers, par exemple?
Alors les moyens, il y a, c'est généralement le du bateau, hein, on, c'est un voyage qui se fait par voie maritime. Là, ils ont la chance d'avoir des bateaux sophistiqués, des qui font partie de la flotte de Louis XIV, on va dire, c'est un bateau d'ambassadeur, donc on va pas leur donner une vieille barque pour faire cette traversée. Le voyage dure plusieurs mois, c'est quelque chose qui est très long, il faut faire des arrêts. Et c'est, ça se passe pas forcément toujours très bien parce que on peut, les bateaux peuvent se séparer, on l'a un peu vu dans le voyage là, des fois ils se perdent, ils se retrouvent après, et surtout il y a le scorbut qui est quand même une grosse problématique. Donc parce qu'on ne connaît pas encore tous les fonctionnements de cette maladie, c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois dans au 16e siècle, c'est sous Vasco de Gama, donc c'est pendant les voyages de Vasco de Gama que ça a été décrit, donc on est vraiment au fin 15e, début 16e, quand on commence à décrire le scorbut.
Donc le scorbut, on le rappelle, donc c'est cette maladie donc qui où les dents se déchaussent par exemple, qui est due en fait à un manque de vitamine C et qui fait vraiment donc des ravages parmi les équipages.
Oui, des ravages. Donc Jean Basset s'y attarde beaucoup, hein, il décrit longuement la mort des marins, hein, et donc c'est quelque chose qui semble le marquer parce que justement il est vraiment régulièrement dessus. On parle de ces morts affreuses des marins et de leurs tentatives pour les sauver.
Pas de naufrage?
Non, il n'y a pas de naufrage cette fois-ci parce que par exemple il y a une ambassade, je sais plus l'année, mais c'est au début des années 1680 du Siam vers la France qui fait naufrage vers Madagascar. Donc c'est vraiment pour une fois ils n'ont pas eu de naufrage.
Alors, première escale du bateau, c'est au Cap, en Afrique du Sud. Que voit Jean Basset? Qui rencontre-t-il?
Alors, au Cap, il voit une colonie néerlandaise en formation. On est dans les tout débuts de la présence néerlandaise au Cap. C'est l'endroit est stratégique parce que pour aller en Asie, vaut mieux faire un arrêt afin de se ressourcer parce que la traversée est tellement longue. Donc les Néerlandais installent une colonie et ils essaient de mettre en place de l'agriculture. Jean Basset le décrit bien, ils font des maisons aussi à la néerlandaise, des maisons blanches. Donc il y a ça qui se met en place. Il y voit aussi les peuples locaux, ce qu'ils appellent les Khoikhoi. Bon, sans surprise de la part d'un Européen du 16e, du 17e siècle, la description est très péjorative. Ah, c'est des peuples sauvages qui font des cris, qui ont une religion qui est un peu désespérante. On se dit on peut même pas sauver leurs âmes. On en est à ce niveau-là de description.
Après cette escale au Cap, l'ambassade reprend la mer pour une seconde halte sur l'île de Java à Batavia. J'ai beaucoup aimé ce passage de son travail car tu fais une description de Batavia comme une véritable ville-monde au XVIIe. Est-ce que tu peux revenir sur ce portrait de la ville?
Alors Batavia, c'est une on est dans la région malaise et c'est une ville qui connaît une sorte de, pas le terme, mais de renouveau avec les Néerlandais qui s'y installent vraiment, et c'est un peu l'un de leurs territoires un peu gardés, un peu plus ouvert que Bantam. Ils s'installent en 1719, ils ont conquis Batavia en 1619. Donc là, ça fait 60 ans qu'ils sont là. un peu plus. Et donc, ils mettent en place aussi l'organisation de la ville, un peu, alors c'est le terme que j'aime bien, c'est une Hollande sous les tropiques. Donc, il y a cette organisation de Batavia qui est gérée par les Néerlandais et qui garde, comme le dit Léonard Busset, un côté très oriental, parce que il n'y a pas que les Néerlandais, il y a les Chinois évidemment qui ont une présence très importante dans toute la région malaise. On y retrouve des Japonais et avec la VOC déjà rien qu'avec la VOC on retrouve une partie de l'Europe, parce que on a des marins qui sont anglais, qui peuvent être allemands, norvégiens, donc on a toutes ces personnes-là qui se retrouvent. Et il y a une importance chinoise, c'est notamment assez bien décrit par l'historien allemand Jürgen Nagel ou Kerry Wad. C'est les Chinois ont un poids à Batavia qui est considérable. Bah, parce que c'est proche de chez eux, ils ont quand même beaucoup de ressources commerciales, donc c'est un terrain qui est propice pour les Chinois. Il y a la question, ils vont à Batavia parce qu'ils ont toutes les ressources européennes et les Européens veulent les ressources chinoises. Donc il y a même des artisans chinois et des artisans indiens qui s'installent à Batavia parce qu'ils peuvent vendre facilement. Donc vraiment Batavia, il y a un ensemble de quartiers. Il y a un quartier chinois, il y a un quartier indien, il y a un quartier. Donc on a tout ce monde qui se retrouve à cet endroit-là.
Et Jean Basset, quelles sont ses impressions, ses réflexions sur cette ville? Car on rappelle tout de même qu'il s'agit de son premier voyage hors de France.
Lui, ses réflexions personnelles, c'est assez simple, c'est réfléchir comment on pourrait convertir les âmes. Bon, il n'est pas vraiment ici pour faire du tourisme, mais lui, ce qui l'a vraiment marqué à Batavia, c'est d'avoir rencontré ce Français qui était prêt à héberger des missionnaires pour convertir les âmes locales. Vraiment, l'aspect économique l'intéresse guère. Hein. Il n'est pas là pour ça, il est là... C'est un bon missionnaire zélé, c'est convertir des âmes vraiment qui l'intéressent.
En septembre 1685, après 7 mois de mer, l'ambassade française arrive à Ayutthaya, la capitale du royaume du Siam. Comment est-elle reçue? Avec faste?
La réception est plutôt très positive. Ça semble vraiment très bien organisé et les Français sont vraiment très très bien reçus. Après, l'optique n'est peut-être pas la même des deux côtés. Louis XIV, il envoie une ambassade chez, comme il dit, son cousin, le roi de Siam. Le roi Narai, lui, il reçoit une ambassade d'un grand souverain européen. Il n'en est pas... Donc, il voit peut-être pas les choses de la même façon. Mais l'accueil est quand même très, très positif. Hein. Ça reste des ambassadeurs royaux, donc il n'y a pas de raison de les chasser.
Concrètement, on fait quoi? On fait des échanges de cadeaux, par exemple?
Oui, l'échange de cadeaux, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans une ambassade du 17e. Et il y a un cadeau qui n'est pas trop décrit dans les récits, mais qui est... quasiment obligatoire, c'est Louis XIV qui offre un portrait de lui sublime à cheval à notre roi. Après, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est que le roi Narai, lui, il avait commandé aussi ses cadeaux. Il voulait tout ce qui est en lien avec l'astrologie, des lunettes, des maps monde.
C'est aussi à la cour du roi Narai que l'ambassade française fait la rencontre d'un personnage, ce genre de personne qui fait généralement tout le sel de la recherche historique, c'est le ministre grec du souverain, Falcon Ootakon. Mais pourquoi un ministre grec à la cour du roi de Siam? Quel est son parcours, son rôle?
Falcon, c'est quelqu'un, c'est un grec orthodoxe, et qui a, dans sa première vie, a travaillé pour l'East Indian Company, fondée en 1662. Donc, il s'est rendu au Siam, en 1600, du coup, avec l'East Indian Company, et c'est quelqu'un qui semble avoir du verbe, qui semble avoir un certain charisme, et il finit par se faire remarquer. À tel point, c'est élément notable, c'est l'un de, vraiment des seuls Européens dont, qui est, dont les chroniques royales en parlent. Bon, elles en parlent très peu, hein, c'est une ou deux, mais c'est quand même, elles parlent quand même de ce personnage, contrairement aux ambassades de Louis XIV qui ne sont pas du tout abordées. Alors, pourquoi ce personnage est utile à un roi Time, c'est quelqu'un qui connaît le commerce européen, qui connaît les Européens, le fonctionnement européen. Donc, dans un moment où, on rencontre de nouvelles puissances, on se établit de plus en plus avec les Néerlandais. Bon, les Anglais essaient d'être là, mais c'est un peu compliqué pour les Anglais. Mais les Français, en plus, apparaissent. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment utile d'un point de vue diplomatique pour le roi.
Enfin, lorsque la délégation française rencontre le roi Narai, tu écris, et j'étais assez surpris, que Jean Basset ne rencontre pas le roi. Pourquoi ?
Lui, c'est un petit missionnaire. C'est pas lui qui va traiter avec le roi sur les aspects commerciaux. Lui, son but, c'est pas de rencontrer le roi. De toute façon, c'est de convertir des âmes. Donc, c'est pas vraiment du tout étonnant qu'il ne rencontre pas le roi, et pas du tout étonnant.
Cette ambassade française va rester 9 mois au Siam, le temps tout de même pour Jean Basset d'être au contact de la culture siamoise et du monde asiatique. Tout d'abord, comment Jean Basset nous décrit cette capitale du Siam, Ayutthaya?
Il y a un aspect qui revient, bon, c'est vrai que c'est peut-être l'aspect qui revient le plus dans les récits de voyage, c'est l'eau. C'est une ville qui est bordée d'eau, donc c'est pratique évidemment pour la culture du riz qui demande beaucoup d'eau, et puis même pour la circulation, ça se fait assez bien. Après, il n'a pas une description de la ville qui est vraiment d'une grande précision. Il voit pas bien tous les différents quartiers. Avec le quartier portugais, donc il fait une description assez sommaire, donc il note des choses avec lesquelles il a peut-être eu des problèmes, comme les moustiques, mais et les marécages, mais on en revient toujours à l'eau. C'est pas la description la plus utile vraiment de la ville. Hein.
On le voit donc, Ayutthaya nous est décrite plus que sommairement par Jean Basset. Pour approfondir, quel est le portrait de la ville qu'on peut faire en 1685?
Alors, c'est une ville qui a des infrastructures qui sont quand même tournées vers l'eau. Hein. Il y a un port, il y a un arsenal de vaisseaux. Et donc, c'est entouré par l'eau. Ça, c'est vrai. Alors, après, il y a quand même un aspect, le palais du roi qui est quasiment au centre de la ville. Il y a la mise en place de séminaires, mais c'est sans doute une ville qui est aussi une ville monde, peut-être moins grande échelle que Banten, que Batavia. Mais c'est une ville qui est en train de se développer et on voit sur les cartes, il y a un quartier chinois, il y a un quartier qui est malais. Donc, mais les quartiers sont par contre séparés par un cours d'eau du centre de la ville. Donc la ville, c'est comme si on avait un mur. Et les quartiers étrangers sont à l'extérieur de ce mur.
On plaisantait là-dessus, mais Jean Basset n'est pas au Siam pour faire du tourisme, mais il est avant tout dans un travail d'observation pour permettre de convertir les populations locales à la foi chrétienne. De fait, il est au contact, lors de son séjour, au bouddhisme. Quel regard porte-t-il sur cette religion ?
Il voit le bouddhisme comme... il essaie de comprendre cette religion qui comprend pas forcément très bien. Donc, il voit évidemment le rôle des moines, mais comme beaucoup de Français, ils comprennent pas forcément l'importance du roi dans la religion. C'est ce qu'on appelle un vieux roi. Le roi peut démettre un moine s'il le trouve incompétent. Et c'est sans doute ça qui a posé beaucoup de problèmes aux Français, parce que les Français pensaient que le roi allait se convertir. Jean Basset y croyait, mais c'est totalement irréalisable. Il accepte les autres religions, mais c'est pas pour autant qu'il va se convertir. Il y a quelque chose qui semble moyennement apprécié chez le bouddhisme, c'est cette présence de feuilles d'or. Donc les statues de Bouddha sont vraiment doré, donc c'est trop, ça fait trop sans doute pour un religieux français. Et pour lui, tout cet art religieux, il y a un peu un art de seconde zone. Hein. Donc il y a quand même un côté assez dédaignant avec la religion de l'autre. Hein.
Je me répète, mais tout ton travail a été de confronter le récit de Jean Basset à d'autres sources, comme par exemple les ouvrages historiques sur l'histoire du Siam. Et sans tout dévoiler, quelles sont, avec le recul, les erreurs, les oublis que fait Jean Basset dans son journal ?
J'ai envie de dire la principale erreur, c'est sur le roi de Siam. Bon, déjà, il l'a pas rencontré, mais d'avoir eu l'espoir qu'il puisse se convertir. Je pense que c'est une erreur qui est absolument fondamentale dans beaucoup de récits français. Après, qu'ils ne comprennent pas toutes les subtilités de la religion, bon, pourquoi pas, c'est une religion qui est très particulière. Après, il y a les aspects souvent économiques qui l'intéressent pas forcément. Donc, par exemple, sur les relations entre les Chinois et les Japonais à Batavia, c'est pas très important. Autre peut-être oubli ou je sais pas comment le décrire, c'est la question de l'islam. À ma grande surprise, ils en traitaient pas du tout, comme si ce n'était pas présent, ou sans doute parce que l'islam est une religion connue et qu'il n'allait pas s'attarder à décrire une religion que les Européens connaissent bien. Mais pourtant, l'islam est présent au Siam. Par l'intermédiaire des Perses, le roi de Siam possède un exemplaire du Coran que les Perses ont offert. Il y a des fêtes musulmanes qui sont financées aussi par la couronne, comme les églises européennes sont financées par la couronne. Donc, ça, je ne sais pas si c'est un oubli volontaire ou on est trop tôt dans ces lettres. Je n'ai pas regardé les lettres suivantes, ils en parlaient plus. Peut-être parce qu'il n'a pas encore vu à ce moment-là. Le récit voyage est en décembre, donc il n'a peut-être pas encore tout vu non plus.
Parlons pour conclure du bilan et des suites de cette ambassade de 1685. Lorsque les ambassadeurs français reviennent en 1686, quel bilan font-ils au roi Louis XIV de leur voyage ?
Alors le bilan, il y a un bilan économique, il y a des avancées pour l'établissement d'un contrat français, pour notamment aussi les mines qui sont sur l'actuelle île de Phuket, il y a des mines de fer, de soufre. Donc il y a ces aspects-là. Après, ils vont essayer d'enjoliver la situation, parce que c'est pas la principale préoccupation de Louis XIV, il y a quand même l'aspect religieux. Alors peut-être un mot sur l'aspect religieux. Donc ils vont essayer de dire que oui, le roi Narai s'intéresse beaucoup à la religion catholique, il a une Bible, il a une croix qu'on lui a offert. Bien, ben oui, il a une Bible et une croix, mais comme il a un Coran aussi, donc il y a quand même cette vision de dire ah, il est quand même très intéressé, on pourrait réussir à le convertir, alors que il y a aucun espoir. Cet espoir de conversion, il est aussi dû au confesseur du roi, qui a été peut-être un peu trop optimiste dès le départ, c'est le père Lachaise, qui est confesseur du roi et qui a vraiment participé à mettre dans la tête de Louis XIV cette possibilité de conversion du roi Narai, ce qui serait pour les Français une formidable réussite d'un point de vue religieux, surtout que le roi Louis XIV est un peu en conflit avec la papauté. Donc.
Enfin, au niveau diplomatique, est-ce que cette ambassade de 1685 porte-t-elle en germe un approfondissement des relations franco-siamoises ou quelles sont ses suites ?
Au retour donc de l'ambassade française de 85, qui repart en 86, il repart pas seul, il repart avec des ambassadeurs siamois et dont un que l'on connaît qui s'appelle Kosapal. Et pourquoi on le connaît, c'est que on a trouvé une chance inouïe, on a trouvé son récit de voyage à Paris, donc l'une des seules sources siam qu'on ait pour l'époque. Donc on a ce récit de Kosapal qui fait partie de l'ambassade siamoise en France 86. Alors, les choses vont un peu s'envenimer par la suite, notamment parce que les Français essaient de mettre vraiment une garde française, de mettre beaucoup de troupes françaises, et il va y avoir quand même une réaction assez violente en 88 qui conduit à une révolution. Alors il reste quand même sur cette affaire de 88 un grand mystère qu'on ne pourra pas, dont on n'aura jamais la vérité. C'est la mort du roi Narai. Est-il mort de maladie? Donc son médecin, qui était un Français, explique qu'il serait mort de maladie, ou a-t-il été assassiné par son successeur Petracha, qui mène cette révolution et qui fera exécuter d'ailleurs Constance Falcon? Ça, c'est vraiment la question, on ne sait pas.
D'accord. Et donc la mort du roi Narai, donc en 1600, lors de cette révolution de 1688, signe la fin de ces relations franco-siamoises.
Oui, oui, jusqu'à Napoléon III.
Dernière question, car on est aussi un podcast qui vise aussi à promouvoir les études asiatiques. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui voudrait se lancer dans des études d'histoire asiatique?
Peut-être déjà une lecture fondamentale de base avant de se lancer là-dedans, c'est de lire l'excellent ouvrage de Jacques Goudy, Le vol de l'histoire, pour déjà se mettre en tête de pas faire un récit qui soit trop européocentré, parce qu'on risque, on va l'être forcément, on l'est forcément, mais il faut essayer de s'en détacher le plus possible, d'essayer de faire, comme dit Romain Bertrand, une histoire à parts égales. Alors après, si l'étudiant ou l'étudiante parle la langue, c'est forcément toujours mieux. Peut-être déjà de faire une histoire de l'Asie, mais d'un domaine qui lui plaise vraiment, ça serait quand même beaucoup plus simple. Pas de se faire imposer un sujet, je suis pas sûr que ça serait très productif, à mon sens.
Ce troisième numéro s'achève. Vous retrouverez sur histoiredasie.fr toute la bibliographie et l'iconographie pour en savoir plus sur ces relations franco-siamoises. Pour le prochain numéro, nous discuterons de la longue histoire de la démocratie thaïlandaise entre manifestations et coups d'État. Enfin, si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur votre appli. Merci de votre écoute et à très vite.